France Inter.
Bonne émission.
Si, je mets la pression. Alors, j'y vais, soyez les bienvenus avec Leïla Kadrouzadi, Julie Conti, Morgane Galdignan, Alexandre Cotillet, Tanguy Pastureau et notre invité Olivia Ruiz. Bienvenue Olivia.
Mais merci.
Bienvenue et déjà bravo pour cet album, on va en parler avec vous, ça s'appelle La Réplique et qui dit invité, bande originale, dit forcément un blind test pour ouvrir par exemple.
La 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 la.
Oh, c'est ça non.
Je sais pas mais j'aime bien. Ah Morgane. Mano Solo, Morgane.
Non,
Manu Chao.
Oui, Manu Chao.
Enfin, mais je comprends tout. Mais non, mais c'est une alité. C'est presque les mêmes lettres. Je les comprends.
Ah, vas-y, rame. Non, mais moi je fais comme toi avec Peter Gabriel et l'autre.
Bah, Manu Chao et Mano. Peter et Eric Clapton.
Non.
J'ai une très faible culture. Mais j'ai le poids.
Et Mano Solo, c'est plus dark.
Oui, mais Mano Solo, Manu Chao, tu vois, dans mon petit cerveau, ça se rentre dedans.
Oui, c'est ça.
C'est juste ça.
Emmanuel Petit, joueur de foot,
c'est
Manu. Dès qu'à Manu, quoi, en fait, c'est ça. Ok, d'accord. Et là, ça s'appelait Rumba Barcelona, Manu Chao.
Je suis pas très bonne.
Alexandre et Gypsy King, non.
Non.
C'est trop lent.
Je sais pas. Non, ils font des.
Tu peux jouer, Olivia, aussi. Si tu...
Bien sûr, bien sûr.
On va connaître la voix.
Et Bernard Lavillier au hasard.
Exactement.
Bah, c'est du Bernard Lavigne, non pas.
C'est vrai, t'as raison.
Ouais.
Oh, wow.
Je trouvais que l'intro faisait Bernard. Ça s'accélère un peu.
Vous avez pas écouté ce qu'il a dit?
Non, pardon.
Écoute,
je parlais un peu de l'Espagne.
Voilà, c'est ça, ma pote.
Est-ce qu'on en aurait un thème?
On n'est pas loin. Et là,
Leïla, Freddy.
Oui.
My love.
Barcelona avec.
Avec la diva.
Montserrat Cabell.
Oui.
Freddy Mercury. C'était pas le meilleur morceau. Hein,
arrête, qui... c'est pas, touche pas.
Ok, je... non, pas touche.
C'était un morceau de démonstration vocale, en tout cas.
C'était beau.
C'était qui la plus grosse voix.
Ouais.
Mais c'est un des rares chanteurs quand même.
Capable
de d'aller jusque là.
Bah, Florent Pagny avec Caruso, il l'a fait.
Oui, mais bah, c'est quand même prédit.
Il avait chanté oui, Caruso avec le mec s'il a du café il est content. Pardon.
Pavarotti,
hein, merci.
C'est précieux du café.
Si vous demandez du café, c'est qu'il est de bonne humeur. C'était une
pub
pour
un
café.
Mais qui
résume Pavarotti à un café. Un peu comme Georges Clooney.
C'est pas grave, c'est bien de le connaître.
Qui chante ça?
Ah si. Leïla, c'est M.
Non.
Ah, ça aurait pu. Christophe Maé.
Non.
Ah.
Ça s'appelle Barcelona.
Morgane, Ed Sheeran ?
Oui !
Ah, bravo ! C'est ça ? C'est quand tu veux, Olivia ?
J'ai tout fait, Olivia, pour que vous soyez à l'aise. C'est que de l'Espagne, c'est que
mais
du
oui,
Barcelone.
Mais oui, mais non.
Mets ton casque.
Voilà. Oui, mais pas Ed Sheeran.
On aurait dû faire l'Islande. Hein.
Leïla, j'aimerais tout mettre sur le dos du casque, mais pas du tout.
Et là ?
Alexandre. Ah non.
Alexandre, c'est vrai, Shakira.
Alors quel rapport avec l'Espagne?
Aucun rapport avec l'Espagne, elle est colombienne.
Écoute.
Ouais, chantez ça.
Ok.
J'ai pris la version espagnole.
Beaucoup de chance.
La chaleur que j'ai eue là.
C'est peut-être pas.
Allez, colombienne là.
Oh les mains.
Heureusement que j'ai mes papiers. Hein. Qui chante ça?
Alexandre, Bad Bunny, non.
Non.
Rao Alejandro,
non. Oui.
Juan Fonsi,
non. Vous allez faire tout le reggaeton.
Mamacita, mamacita, que bonita.
Pitbull,
non.
Sean Paul,
ça je ne sais pas.
Daddy Yankee, non, je sais pas.
Alors, tu vas me dire, mais ah, bon, ils sont pas espagnols, non, ils sont pas espagnols.
Black Eyed Peas,
oui.
C'est vrai,
oui.
Oh,
wow.
Parce que t'as dit ils sont et c'est le seul groupe.
Ouais, c'est celui qui chante en espagnol.
Ouais.
Je sais pas.
Non, mais j'ai pas le feat, ça va, ok. Attention, tout va se jouer. Pour l'instant, Morgane est en tête. Si personne ne trouve le Super Banco, c'est Morgane qui gagne. L'interprète,
oui. C'est Jeannette avec Porquetéba.
Jolie.
Tous les titres de vieux,
bien.
Victoire de Tanguy Bassiro, bravo.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kaddour.
Et oui, parce que Olivia Ruiz, dans votre nouvel album, l'Espagne, comme si vous vous permettiez enfin de chanter plus en espagnol, vous le dites. D'ailleurs, avec une triste nouvelle, celle d'avoir perdu vos deux derniers grands-parents, vous dites maintenant, allez, j'ai plus peur de faire des fautes en espagnol, je vais y aller.
Ouais, disons que c'est plus prioritaire dans mon choix de langue au moment où j'écris. Effectivement, c'est important.
L'espagnol est présent et pas uniquement. Il y a évidemment beaucoup de Français.
Je suis de celle qui nage à contre-courant, qui refuse le sens du vent, qui refuse d'être la réplique de la réplique de la réplique. Celle que personne ne peut attraper, ni tenter d'emprisonner, sans que je réplique, que je réplique, que je réplique. La Pachamama está enojada. La abusemos, se replega, desconfía. Nos corta las piernas, ella se defiende. Nos tira piedras, grita un bastante. Regarde-la, c'est le destin qui t'appelle. Elle a les clés, tu retrouveras le sommeil. La vie est là.
Ça fait longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles, non pas de vous, mais de vos albums. 8 ans sans album.
Eh oui.
C'est fou. Alors que non, mais moi j'ai l'impression que c'était plus court que ça, mais parce que vous étiez souvent venu chanter avec d'autres.
Eh oui, mais c'est vrai que je ne les ai pas vus passer ces années-là. Elles ont filé.
Mais en réalité, voilà. C'est quoi? C'est 6 ans. Parce qu'entre le moment où on sort un album, on le tourne, on l'exploite et tout, il se passe bien 2 ans et demi, 3 ans, non?
Il y a bien 2 ans de tournée qui suivent la sortie. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas
8 ans d'absence.
Ouais. C'est 6 sans album. Ouais.
D'autant qu'il y a eu des spectacles, d'autant qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites, notamment autour de la danse.
Tu danses pour toi.
Est-ce que le point de départ justement de cet album n'était pas le rythme pour la musique, c'est assez important, mais le fait de pouvoir danser?
Si, en tout cas de trouver une nouvelle matière.
Je croyais en espagnol. Si, claro.
Non, pas du tout. Non, mais bien sûr. En tout cas, l'envie que la musique inspire un autre mouvement au corps. Voilà, ça c'est sûr que ça faisait partie des points de départ, un balancement, quelque chose de l'ordre du chaloupé, quelque chose de doux et de plutôt lent, et puis finalement quelques accélérations se sont emparées de certaines chansons.
Comme souvent avec le corps.
Je vois.
Intimité aussi dans cet album, beaucoup de références à des membres de votre famille, à votre histoire personnelle, à vos combats aussi, on en parlera. Combat pour les femmes, combat contre la drogue utilisée pour la soumission chimique. Voilà l'expression que je cherchais, merci. Clin d'œil évidemment à votre enfant. Tout ça très reggaeton quand même, non?
Un peu reggaeton, un peu cumbia, un peu chanson quand même aussi parfois.
Oui, mais moins pop folk ou rock que vous faisiez avant.
Effectivement, j'avais pas cette envie-là à ce moment-là. Mais
parce que ça collait avec l'espagnol, justement le reggaeton et l'espagnol étant l'une des musiques les plus streamées en ce moment.
Ah bon?
Ah oui, dans le monde.
Très bonne nouvelle.
Bad Bunny, carton mondial.
Ouais. Wow. Je crois que j'avais défini la couleur avant même d'écrire en espagnol.
D'accord.
La couleur sonore. Donc,
plutôt électro, déjà.
Oui, avec un peu plus d'électro. En tout cas, des choses qui viennent réveiller des endroits très précis du corps. Et c'est vrai que les sub-basses, les tweets, il y a des choses dans les musiques électroniques qui vraiment viennent titiller très concrètement, physiquement.
Des vibrations,
certaines parties du corps, voilà. Et c'est ça que j'avais envie d'aller chercher. Je crois que quand le corps est réveillé, les messages ne sont pas reçus de la même façon.
Ce bon album, on peut en parler jusqu'à 12h30, s'appelle La Réplique.
Qui nage à contre-courant, qui...
Alors c'est marrant parce que ça commence par « Je nage à contre-courant » et je suis en train de vous dire que c'est dans le courant au contraire le reggaeton, et vous l'aviez anticipé.
Mais nous sommes tous faits de contradictions.
On en parle jusqu'à midi et demi, mais voici Julie Conti.
Oui,
là-bas.
Oui, Julie.
Parce que Julie Conti, vous n'auriez pas fait un album comme ça.
Non, alors je l'aurais pas fait comme ça. Mais avant de commencer, je veux juste vous dire que je vais pas évoquer votre passage à la Starac, parce que à votre place, ça me fatiguerait qu'à chaque fois qu'on parle de moi, on évoque ce que je faisais il y a 23 ans. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais ado. Donc mon activité principale, c'était de me faire friendzoner par les mecs desquels j'étais amoureuse.
Ah mais Julie, t'es comme une sœur pour moi.
Dis-moi Thomas, ôte-moi d'un doute. T'as jamais baisé avec ta sœur, non? Bon, bah comme ça, au moins, je suis fixée. Pour en revenir à votre album, Olivia, la réplique, je l'aurais pas fait comme ça, parce que les rythmes sont hyper dansant, c'est un savant mélange de sons électroniques, reggaeton, cumbia, bref, la joie, mais les thèmes abordés en français comme en espagnol sont assez intenses quand même.
Ouais,
hein.
Ouais.
La pachamama, l'environnement, tu danses, les violences faites aux femmes, à toi, l'immigration, et moi, je suis supposée faire des blagues là-dessus quand même. Hein. Et la chanson Abuelo, alors celle-là, elle me fait carrément chialer, une magnifique chanson à trois voix avec votre frère et votre père en hommage à votre grand-père maternel qui a fui le franquisme. Mais vous auriez pas pu faire un truc plus léger, à la Patrick Sébastien, hein, genre les sardines.
Mais si, ça peut être une idée de voilà. Reprise.
Les sardines, c'est super. D'ailleurs, pour vos prochains albums, j'ai même déjà traduit les paroles.
Oh non.
Vous êtes prêts?
On a.
Allez, on y va.
Que apretado estamos en el fondo de esta lata. Canta las sardinas.
Canta las sardinas.
Apretado estamos en el fondo de esta lata. Canta las sardinas. Entre aceite y el condimento.
Magnifique.
Faut sortir.
Ça vous intéresse?
Mais ça m'intéresse.
Bah, dépêchez-vous parce que j'ai aussi Julio Iglesias qui a envie de la prendre.
Prenez-la.
Non, mais plus sérieusement, votre chanson Abuelo m'a particulièrement touchée parce que c'est l'histoire de mes grands-parents aussi. Et aussi parce que j'adore les vieux. Alors, Nagui, non, ça n'a rien de sexuel, donc arrête de palucher sous la chanson. Non, j'aime juste les personnes âgées parce qu'on peut se nourrir de leur expérience, de leur sagesse. Bon, je suis pas complètement naïve, hein, c'est pas tous des anges. Hein.
À mon époque, les bonnes femmes, elles restaient à la maison et si elles l'ouvraient, on leur coller un taquet, c'était le bon temps.
Eh hey Raymond, c'est pas parce que t'as recommencé à chier aux culottes que ça te donne le droit de dire toutes les conneries qui te passent comme un enfant de 3 ans, quoi. J'en reviens à la chanson. On sent que votre grand-père était bien entouré, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes âgées. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans un EHPAD, mais on n'est pas emmerdé par le monde. Et vraiment, c'est pas facile de vieillir, arriver à un certain âge, on t'infantilise, on décide pour toi. Ma grand-mère, elle adorait le sucre, alors je lui amenais tout le temps des pâtisseries, mais en douce parce que l'infirmière, elle disait qu'il fallait pas qu'elle mange trop de gâteaux pour pas prendre de poids. Mais pourquoi vous avez prévu d'organiser un bikini contest à l'EHPAD? Non, c'est quoi le délire? Elle avait 80 ans. Alors a priori, son summer body, c'était le cadet de ses soucis. Et quand t'as traversé le franquisme, je crois que t'as gagné le droit de décider ce que t'as envie de bouffer.
C'est
bref,
clair.
Olivia, vous m'avez pas facilité les tâches avec votre album pour écrire des blagues, mais je voulais vous dire merci parce qu'avec Abuelo, vous avez dit des choses que moi j'ai pas eu le temps de dire aux miens.
Oh,
oh joli.
Et on retrouve Julie Conti sur scène, bien sûr, en Suisse.
Le 2 mai à Genève pour la dernière de la saison.
Allez-y.
Alors venez.
Ça va piquer les yeux un peu, non?
Oui, non, mais moi je chiale, je peux pas l'écouter sans pleurer.
Non, la dernière. 2 juillet 1923.
Ah non.
Et rien ne te faisait mal.
Elle est sublime.
Comme tu aimais à le répéter.
Toutes les femmes voulaient danser avec toi, même les jeunes. Valse, tango, passo doble, aux grandes dames de mamie Pepita, qui crevant de jalousie te
fait. Et ça finit même avec la voix aussi. Mm-hmm. Vous avez retrouvé des.
J'ai essayé de la faire sur scène. C'est impossible.
Tellement vous êtes envahi par l'émotion.
Non, mais c'était une catastrophe. Mm. J'ai fini par dire, et peut-être qu'un de vous, mes musiciens, pourrait venir si vraiment je craque. Et puis, on a tous décidé ensemble que c'était vraiment pas une bonne idée. Il y a des chansons qui...
Non, c'est une bonne idée d'avoir faite, en tout cas.
Ouais, mais elles doivent rester... maintenant, elles appartiennent à chacun avec sa propre histoire. Et c'est pour ça que c'est joli d'entendre ces mots.
Pour revenir à l'écriture d'une chanson, sa part, vous avez évoqué tout à l'heure des vibrations que l'on peut ressentir dans le corps pour la musique. Le texte, en effet, est beaucoup plus dans vos combats, dans vos histoires, dans votre vécu, au point même d'en dire encore plus sur ce que vous avez vécu. C'est toujours très intime d'écrire une chanson. On est obligé de mettre beaucoup de soi.
C'est toujours...
Sans pudeur.
C'est toujours très intime et en même temps, moi je sais que comme je suis quelqu'un d'assez pudique et discret, je mets toujours une petite distance. Il y a un moment où la poésie me sert uniquement à ça, à ne pas figer les choses de façon à ce qu'elles soient pas trop concrètes dans la compréhension, ce qui permet à l'auditeur d'en faire ce qu'il veut et d'en comprendre que ce qu'il veut, que ce qui lui fait du bien finalement, et ce qui me permet à moi de garder ma part d'intime, en tout cas.
Oui, mais vous imaginez, sans faire d'explication de texte, que systématiquement, les journalistes dans les émissions et nous ici, on vous dit de quoi ça parle, vous parlez de ça. Donc forcément, on va...
Elle ne répond pas.
Oui, c'est ça, si. Je ne réponds pas.
Bah, tiens, non, la réplique, non, ça parle sûr. De quoi? La réplique, par exemple.
Oh, bah, tout est dit, je crois, déjà, dans la réplique, non?
Elle est née comment?
Elle est née d'une amie qui me dit « Mais pourquoi tu vas toujours te mettre dans des situations casse-gueule ?» Voilà. Pourquoi il faut toujours que t'ailles à l'endroit où on t'attend pas? Pourquoi cette peur panique qu'on te prenne ta liberté? Est-ce qu'il est pas temps de te détendre à 40 balais? Voilà, et elle part de chez moi, et on a bu un verre ou deux, et puis moi je suis là, je me dis « Mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce qui me pousse à ça ?»
Ouais.
Et tout de suite envie de me dire « Mais si on était... Si j'étais vraiment comme ça, et si on était toutes comme ça, et si on formait une armée, puis moi c'est toujours les images qui vont dicter le texte, et c'est les images qui arrivent de films catastrophes où tout d'un coup une armée de super-héros,
des boules,
femmes, des boules, et remet tout en place, et c'est ça qui dicte finalement souvent le contenu des images.
À toi, ceux qui apportent leurs différences et un peu plus de couleur dans la vie.
Toi qui n'es ni d'ici ni d'ailleurs, à toi le poisson migrateur, à toi qui m'enrichis de tes couleurs, à toi qui floute ton visage, à toi ton âme et sa pâleur, à toi qui as pour seul bagage ton courage et ton cœur.
Votre histoire personnelle, mais aussi celle de la planète et de l'ordre des choses, c'est-à-dire la diversité, l'ouverture d'esprit aussi, et le fait de chanter même en chœur, tous ensemble, ce refrain, ça aide. La production même de la chanson va dans ce sens-là.
Oui, je me rappelle que beaucoup de gens me disaient « Mais c'est vachement beau ta voix toute seule là sur ce refrain. » Je disais « Mais c'est plus la chanson alors. » Parce que c'est effectivement une chanson qui est vouée à dire « N'oublions pas que nos différences nous enrichissent.
Ouais. »
Et c'est vrai que quand on est maman et qu'on voit la montée du Front National qui ne cesse d'envahir notre histoire, on a peur pour nos enfants en fait, très clairement. Hein. Et pour ceux qui viendront demander une main tendue aussi.
Et quand justement vous évoquez les enfants, c'est le cas dans Le Sel, il y a aussi dans À Toi cette idée de dire à votre enfant qu'il a du sang de toutes les couleurs, de toutes les origines qui coule dans ses veines.
Bien sûr, et une façon de lui dire aussi pour maintenant et pour plus tard... L'autre n'est pas ton ennemi. Tu dois toujours commencer par le traiter comme ton frère. Et ensuite, l'histoire dira ce que vous deviendrez. Mais la vie, ça commence par ça. Et celui qui est différent a déjà une difficulté à affronter. Au moins, tendons-lui la main pour l'aider à s'accomplir, quoi. Il y a un peu tout ça dans cette chanson, finalement.
Des corps gâchés, salis, souffrant l'absence de caresses. J'entends des corps qui supplient, des corps qui s'élèvent ou s'affaissent. Je vois des corps chantant, qui célèbrent l'après l'avant. Des corps épanouis par la danse, qui parlent haut dans le silence. Des corps résignés.
Il y a tout dans cette chanson. Il y a tout. Il y a autant les caresses que les agressions. Il y a autant le spectacle de la danse. Que le mal-être,
de la chair aussi.
Ou que le mal-être dans sa peau, il peut y avoir des caresses, de l'amour, de la violence. Il y a tout, il y a beaucoup de choses.
Bah, je trouve qu'on vit une drôle d'époque dans notre rapport au corps. Je ne sais plus quelle comédienne disait qu'elle était assez éberluée en voyant au Festival de Cannes une espèce de démonstration de nudité... et qu'elle était déroutée par ça. C'est vrai que...
Ça peut être aussi une manière d'assumer son corps.
Absolument, c'est que de réappropriation qui est nécessaire, bien sûr.
Ça peut choquer d'avoir la nudité comme ça peut être beau de l'assumer.
Il y a même, ambiguïté qui m'intéresse.
Voilà. Il y a même une tendance maintenant de robe transparente. Celle de Kate Moss, je crois, qui est partie à des millions d'euros, mais je pense plus parce qu'elle a été portée par Kate Moss. J'exagère peut-être pour les millions d'ailleurs, mais je pense que c'est plutôt milliers pour la robe.
C'est bien déjà.
Mais l'idée d'une robe transparente, oui, c'est ça. L'idée d'une robe transparente, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que certaines personnes ont besoin de se réapproprier leur corps et leur image et d'en faire ce qu'elles veulent. Et à la
fois. On se l'approprie en le montrant à tout le monde?
Ou en le cachant, par provocation
et
aussi.
Voilà, et puis d'autres ont envie de mystère, et peut-être que nos générations à nous sommes plutôt sensibles à la sensualité quand elle garde une forme de mystère aussi. Puis ce corps qui devient un boulet alors qu'il est un miracle, qui nous permet de tout faire et qui nous emmerde jour et nuit dès que le vieillissement s'empare de notre vie. C'est quand même, c'est sans fin. Et puis quand on est une femme et qu'aujourd'hui, grâce aux activistes, au réseau, on est informé de tout ce que subissent les femmes, c'est un truc qui est un coup de poignard dans la chair. Moi, ce texte, je me suis jamais dit, je vais écrire un texte sur le corps et sur la violence qu'il subit. Et je me suis réveillée, il est venu d'un coup, probablement après une nuit, à aller lire des témoignages insupportables. Et nécessaire, pourtant.
Ou à vivre des expériences personnelles bien aussi sûr. Dangereuses. On en parlera tout à l'heure avec Caroline Darion. Je me permets d'en parler super. Parce que vous l'avez évoqué.
Et je soutiens absolument la cause de Caroline, qui a une histoire...
Et son inquiétude. Et son inquiétude pour que ça se reproduise pas pour d'autres. C'est-à-dire de subir chimiquement une emprise avec le doute que vous avez eu de ne pas savoir si vous avez été drogué ou pas. Mais il y a de fortes chances que ce fût le cas.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous semble très lointain. On a l'impression qu'il faut aller en boîte de nuit et oublier son verre pour être en danger. Mais en fait...
Il y a des personnes beaucoup plus proches qui peuvent se permettre de le faire.
Bien sûr, et l'histoire de Caroline le démontre dramatiquement.
Ce que je suis, et elle sera sur scène, notamment demain, au Printemps de Bourges.
Oui, demain, Printemps de Bourges.
C'est chaud. Le 26 avril à La Roche-sur-Yon, le 17 mai au Festival Art Rock de Saint-Brieuc, le 7 juin à Argelès-sur-Mer, le 9 juin à Esch-sur-Alzette, le 13 juin à Sully-sur-Loire, le 14 juin à Saint-Colomban, 15 juin à Toulouse, 12, on n'est pas loin de Carcassonne, on s'approche, 21 juin à Libourne, 28 juin au Festival Sœurs Jumelles à Rochefort, 30 juin Festival Europa Vox à Clermont-Ferrand. J'attends. Je ne vois pas Carcassonne ni Marseillette. Je suis inquiet.
Mais j'espère bien que ça va apparaître dans
le 6 juillet Fouesnant, le 7 juillet à Nort-sur-Erdre, le 11 juillet à Rodez, le 13 au Vieille Charrue à Carré, le 19 juillet à Chantex, le 24 juillet à Sète, le 25 à Sainte-Maxime dans le Var, et ensuite il y aura Agen le 31 août et le 1er.
J'ai mal aux jambes de vous voir. Déjà, je sens mes mollets lourds comme après 40 concerts.
Et il y a l'Olympia.
Et l'Olympia en novembre.
Qui va arriver en novembre, on en reparlera.
Et puis pendant ce temps-là, elle va écrire un livre.
Il n'y a pas les trains. Nous, c'est Tourbus. Hein, on aimerait bien.
Ah ouais, écrire, c'est dur.
Et un spectacle de danse. Ouais.
Et puis,
faut bosser. Faut bosser.
Je m'ennuie.
En tout cas, nous, on s'ennuie pas à l'écouter. Et encore une fois, c'est une réussite, cet album d'Olivia Ruiz, La Réplique. On en parle jusqu'à midi et demi. Mais voici Morgane.
Oh oui,
Morgane, ce qu'il en reste.
Ça fait 80 ans cette semaine que les femmes ont le droit de vote. les filles, joyeux anniversaire de droit civil élémentaire. Alors, non, allez. 80 ans, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est court. 8 décennies, c'est à peine une demi-chronique de Tanguy Pastureau. C'est fou. C'est fou de se dire que quand ma grand-mère est née, c'était pas encore un droit acquis. Ça me paraît dingue. Raison de plus de veiller aux droits des femmes qui sont remis en cause à chaque crise politique, économique ou religieuse, comme le disait Mercotte ou Simone de Beauvoir. Pardon, je mélange toutes mes femmes fortes. C'est terrible. Sous l'article qui parlait des 80 ans du droit de vote, il y avait le commentaire de Fabrice qui disait « Oh, ça va, arrêtez avec votre féminisme, on n'en peut plus !» Puis un autre commentaire de chatbot, vous savez, les robots, qui disait « Viens sur mon profil, tu vas pas croire ce que j'ai trouvé dans mes fesses !» Et je trouve que c'est... Et je trouve que c'est super sensé que tout ça cohabite joyeusement sur Internet. Puisque moi, dans mes fesses, par exemple, on y trouve l'opinion de Fabrice sur le féminisme. Tout se recoupe, hein, tout se recoupe, c'est fou. Après, j'ai vu d'autres articles sur le fait que ce sont bientôt les 10 ans du MeToo, déjà, et je me suis demandé où on en était. Tous les milieux y passent, hein, le mien compris, MeToo stand-up, MeToo cinéma, MeToo hôpital, et comme la violence est partout, tous les milieux vont y passer. MeToo pâtisserie, bien entendu, qui est un chef à la mode qui va être accusé d'avoir pétri une commis de cuisine. MeToo Toulouse pour les abus chez Airbus. Et MeToo Tatis parce qu'au casting de tous les Astérix confondus, on va bien réussir à en trouver un ou deux. Et pour finir, MeToo Much pour l'utilisation de deux jeux de mots d'affilée dans une chronique. Allez, merci. Tout ça pour dire que oui, c'est partout, on le sait. Mais quel est le dénominateur commun de toutes ces accusations que vous pouvez retrouver d'ailleurs très bien classées et résumées sur l'Instagram d'Andréa Bescon. Le point commun, c'est la quasi-inexistence d'aveu. Quasi aucun agresseur supposé n'admet jamais. Donc, on ne peut pas, en tant que société, passer après. MeToo, c'est la partie de ni oui ni non la plus longue et chiante de l'histoire. Finissons-en. Oh, tu l'as agressé, cette fille? Peut-être. Elle était libre, possiblement, consentante, c'est plus compliqué que ça, oh là là, ni en bloc, moi c'est quelque chose que je trouve fou, l'audace d'humain qu'il faut pour dire non, c'est pas moi, je savais pas, vous devez avoir un niveau de zinzin au loup-garou quoi, j'ai rien fait, je vois pas de quoi elle parle, c'est fou que tant d'acteurs moyens arrivent à bien jouer la comédie d'un coup, franchement les gars, faites ça quand la caméra tourne, on aura bientôt des comédies françaises regardables, hein, qui sait, c'est fascinant, moi quand j'ai des cystites, je somatise, ma naturopathe elle me dit que c'est parce que je retiens trop de choses secrètes psychologiquement, mais les gars, vous devez parler, sinon vous allez uriner de la lave, quoi. C'est urgent. Les mecs vont aller pisser dans un champ à We Love Green, ça va partir en Pompéi. Libérez-vous. Et libérez-nous. Allez, le village se réveille, s'il vous plaît. Et pour ceux qui disent encore, ouais, enfin, ça va, ça fait 15 ans, pourquoi elle parle maintenant? Eh bah oui, surprise, c'est dur pour les victimes de parler. Mais vous devriez le savoir, hein, ça maintenant, un mois et demi du bac, on l'a vu l'année passée, hein. Romane, Jacques, Benoît, je vais prendre les carnets si vous n'écoutez pas. Je comprends pas que ça étonne encore le processus de parole qui prend du temps. Il y a des hommes adultes qui s'évanouissent de peur devant un clown à cause d'un film qu'ils ont vu à 8 ans et demi, mais qui bloquent devant la notion de traumatisme. Alors que le clown du film, il a même pas abusé de toi. T'as juste été aspiré dans un égout un jour de forte pluie, c'est une journée classique pour un Parisien sous Hidalgo. Hein. Vous croyez qu'on est venu comment jusqu'ici? Youp, jusqu'à la maison de la radio. C'est dur pour les victimes de parler. Vous avez déjà essayé de réouvrir une plaie qui tente de se refermer. Je me suis opérée de la main récemment et le chirurgien m'a bien expliqué pour que ça cicatrise correctement, faut désinfecter, sinon faudra recommencer. Après, il m'a aussi expliqué qu'on ne jongle pas avec des couteaux, juste parce que Leïla vous a dit « Je suis sûre que tu sais pas jongler avec des couteaux. » Et que vous avez une petite fierté. Bref, vraiment, vraiment, s'il vous plaît, avançons dans cette histoire. Pas tout le monde, en plus, ne veut d'une cancel culture, hein, parce que on a l'impression que c'est un peu ça qui effraie. Moi, je veux pas annuler des gens, même si ça serait un super pitch de série de science-fiction, si d'un coup, on annule l'existence de tous les hommes violents abusifs. Un matin, on se réveille, paf, ils ont disparu. La place en terrasse. Voilà, oh là. Et disons qu'aux cérémonies de remise de prix du cinéma, on pourrait garder quelques sièges pour les manteaux. Ouais. Puis on se rendrait compte que les femmes violentes qui agressent, qui sont l'argument principal et préféré de beaucoup de gens, elles n'étaient pas si nombreuses, tiens, elles existent, hein, bien sûr, mais c'est pas un argument de défense utilisable. Sinon, c'est comme dire, oui, bah, le gâteau était à l'amiante, à l'arsenic, mais vous noterez la présence de 4 coquilles d'œufs, donc mollo. Bah non, là, ma mercotte, elle te poche à douille la gueule. Ça n'existe pas, cette expression, mais j'aime bien, on dirait une expression du Sud pour parler d'une bagarre. Ouais. Onagi, le petit, s'est fait poche à douille en discothèque, c'était pas joli. Ah ouais. Et je parlerai du fait de faire des accents la semaine prochaine. Un militantisme à la fois, je suis super, mais je suis un humain. Non, la cancel culture vous effraie, je comprends. Tentons quelque chose d'autre. On peut passer à une repentance culture, une culture qui dit j'ai merdé, pardon, pour que la société puisse dire ok ou pas. Venez, on sort de ça, s'il vous plaît, allons-y. Là, passeport ouvert, page photo, fil de gauche, fil de droite, on y va. Dans 2 ans, ça fera 10 ans qu'on a libéré la parole. Alain Souchon, dans J'ai 10 ans, il dit que si tu le crois pas, il va te casser la gueule. Donc croyez-nous, s'il vous plaît, croyez-le, comme ça personne ne se fait casser la gueule à la récré.
Merci. Morgane,
franchement.
Est en pleine forme.
Ouais,
elle est merveilleuse.
C'est juste Morgane.
Voilà, elle prépare Morgane. Elle écrit, elle écrit.
Très bien.
Mon corps hurle la fièvre de tes retours, de tes départs. Mon cri contient la fièvre, mais le silence coudra mes lèvres. Tu pars.
Album d'Olivia Ruiz, La fièvre, la Pachamama. J'adore celle-là.
Desconfía, nos corta las piernas, ella se defiende, nos tira piedras, grita un bazar.
Et le nouveau single.
Tu es le sel, laquelle est le piment, tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant, tu es.
On peut peut-être parler des personnes avec lesquelles vous avez travaillé sur cet album.
Bien sûr.
Il y a pas de rookie.
Alors, il y a un morceau de Rookie, effectivement, mais que j'ai d'ailleurs élu dans votre émission.
C'est
effectivement,
vrai,
c'est ouais, vrai. Je faisais partie du jury pour
absolument
cette finale. Et donc, Nino Vella de Rookie, main dans la main pour beaucoup de chansons, avec Vincha, auteur-compositeur de beaucoup de personnes, mais lui aussi artiste, avec qui j'ai partagé la scène plusieurs fois il y a des années. C'est Vincha, le compositeur et producteur des albums de mon petit frère, le rappeur Toan.
Donc, avec qui vous partagez Abuelo aussi et votre papa.
Voilà, donc une histoire de vraiment de famille là.
Ouais, de clan même, j'ai un peu envie
un
de dire.
Un peu de clan.
Il y a une bande.
Oui,
un côté,
ouais,
bande.
Absolument.
Non, mais c'est cool.
Toute petite bande, mais sérieuse.
On va évoquer avec Caroline Darian l'emprise, la soumission chimique et la manière dont il faut lutter contre ce fléau, je sais pas comment l'employer, cette manière de violer grâce à des produits chimiques qui occultent tout
sentiment,
ouais, en conscience, exactement. On ne sait pas ce qui s'est passé, on se pose des questions. Il y avait le GHB qui en effet était la drogue des discothèques en se disant faut faire attention parce qu'un inconnu peut glisser cette pilule. Et on apprendra que malheureusement dans le cercle plus proche. Amical, voire familial, il peut y avoir de l'abus. Et il y en a même des abus avec cette soumission chimique et ça peut même durer plusieurs. C'est pas qu'une soirée, ça peut durer, ce qui est horrible une soirée évidemment, mais ça peut durer même plusieurs mois, voire
J'imagine que Caroline évoquera son
absolument
histoire personnelle.
Oh, bah, sa mère, ouais.
La musique dans la vie d'Olivia Ruiz, on va commencer en 1986 où vous écoutiez. Évidemment. Vous êtes une fille des Mitsuko.
Ah oui. Et ça, c'est vraiment le virus. Reste en moi malgré les années. Avec ma mère, quand le café était fermé, on se mettait les Rita Mitsuko à fond dans le jukebox. C'était des moments de partage extraordinaires.
Et en 86, Olivia, vous êtes une animatrice radio.
Absolument.
Déjà à 6 ans.
Mm-hmm.
De 6 à 12 ans.
Absolument.
Voilà. Vous
c'est
prenez
dommage,
les.
Je n'ai rien retrouvé, hein, parce que ça devait être drôle à 6 ans. Je ne sais pas du tout.
Avec votre père, vous animez une émission tous les deux.
Alors,
vous êtes ensemble,
d'abord. Alors, lui, il est à la régie. Et moi, je suis au micro avec une de mes amies. On a une émission de dédicaces. Les gens appellent pour faire des dédicaces à leurs amis, qui s'appelle Biggie FM. Mais j'adorais ça. C'était j'attendais le samedi et le mercredi comme n'importe quoi d'autre.
C'était à Marseillette.
C'était à Marseillette, oui. Il y avait une place avec mon café d'un côté, l'école et la mairie de l'autre, et la radio. Donc voilà,
quelle économie de transport, tout ça sur la même
tout
place.
Tout à pied.
Périmètre, voilà, très ciblé.
Ah oui, et puis dans un village de 600 habitants, c'est rare qu'il y ait une radio indépendante comme ça.
Et pour écouter quelle musique, vous passiez quoi à ce moment-là?
Alors là, vraiment, 6 ans, je passais du Club Dorothée, mais aussi les Rita, ou Higelin, ou les trucs que mon père aimait et me faisait écouter, ou ma mère. Donc il y avait du Lavilliers aussi, il y avait du Joe Dassin, voilà.
Beaucoup de chansons déjà, vous écrivez des chansons pour votre père toute petite.
Mm-hmm. Il ne chante pas, bizarrement.
Il ne chante pas, vous faites partie d'une chorale aussi, donc déjà vous vous produisez sur scène.
Oui, ça c'est un peu plus tard, à 12
ouais
ans.
Et très rapidement, de toute façon, la scène entre dans votre vie, que ce soit à Carcassonne, dans la cité médiévale, que ce soit avec cette chorale.
Absolument. Carcassonne, c'est plus en tant que comédienne, mais oui, je crois que...
La scène, ouais,
probablement. Alors, je n'arrive pas encore à savoir si c'est le fait de quand on est enfant d'avoir un tourbus qui arrive rempli de gens, avec en plus à l'époque c'était la grande époque des orchestres, c'était des chanteuses qui savaient danser, qui étaient sublimes, souvent elles étaient 3-4 avec des costumes complètement fous.
Ça brillait beaucoup, ouais.
Bah oui, mais c'était vachement bien. Il y avait un niveau qui était assez exceptionnel pour.
Mais pardon
pour...
toujours, hein. Il y a des alors, gens qui chantent dans des balles et dans des, ouais, dans des soirées qui chantent grave.
Mais il y a moins de moyens, ouais, définitivement. Vrai, ouais. Donc voilà.
95, vous écoutiez les Cranberries.
Je les chantais même.
Quand on chante les Cranberries, on chante dans l'imitation de cette voix. On cherche on chante.
Il y a des choses qui sont pas chantables autrement. Le zombie avec l'espèce de retenue où on coupe son souffle tout à coup. Il y a pas mille façons de le chanter pour que ça soit joli. Mais on n'a pas la même voix, donc de toute façon on n'était pas dans une imitation, quoique il faudra demander à ceux qui partageaient la scène avec moi en 95.
Là, il y avait un groupe.
C'était Five qui était avec vous sur scène, votre groupe, et vous assurez des premières parties, des tremplins, enfin ça commence à tourner avec un,
bon, dans un périmètre
toujours
restreint,
un petit peu des mètres, mais on s'élargit un petit peu,
toujours ça tourne à pied,
hein. Oui, voilà, on est toujours à pied,
à vélo peut-être.
Ouais,
on sait que le tourbus, c'est une vengeance sur la vie extraordinaire.
Avec un regard, finalement, c'est un petit périmètre le tourbus. Hein, oui. T'en sors pas beaucoup, tu vois.
C'est vrai.
Ouais, on reste avec un père qui n'était pas forcément très enthousiaste. Allez, future musicienne, sans doute.
Quand on a passé presque une vie à compter les cachets, la peur au ventre de pas en avoir assez pour obtenir l'intermittence, qu'on a deux enfants sur les bras.
On l'a pas dit, il était chanteur.
Toujours. Sur des cours de chant aujourd'hui, le Covid a été un peu fatal à son groupe.
D'où son inquiétude pour la réussite de
sa famille. Oui, on a tous envie de quelque chose de stable pour nos enfants, ce qui est complètement idiot, parce que rien n'est stable en 2023. Aucun travail ne garantit une stabilité. Donc autant qu'ils fassent ce qu'ils aiment, quitte à se planter lamentablement et à revenir en arrière, parfois on pourrait se dire aussi.
Vous leur en avez voulu de vouloir cette vie stable ?
Ma mère n'était pas du tout dans ça.
Mais votre père ?
Mais je lui en ai pas voulu, mais je le félicite chaque jour d'avoir réussi. À m'empêcher de faire ce métier et d'avoir été très efficace dans l'exercice de l'empêchement.
Peut-être au-delà de la vanne, le fait qu'il vous ait prévenu, qu'il se soit inquiété pour vous et qu'il ait peut-être cherché à ralentir, a donné une niaque peut-être deux fois, trois fois plus importante.
C'est ce que je me dis. Je me dis que quelque part, si ça n'avait pas été mon chemin, ça m'aurait découragé. Donc c'était bien d'avoir cette étape. Voilà, pour vérifier si mon envie était vraiment là.
C'est ça.
Quoique cette envie, peut-être qu'elle ne m'appartient pas et qu'elle est beaucoup liée à une tendre revanche personnelle où je suis en train de défendre mon papa en réussissant là où il a peut-être pas
autant réussi qu'il aurait voulu. Et votre enfant, s'il vous demande demain de... Il vous annonce ça demain.
Alors, je sais pas comment je le prendrai, mais pour l'instant, tout ce qui est musique, il a la musique en lui, il chante hyper juste et il a un sacré caractère, ce qui fait que c'est vraiment un rejet total de ça comme discipline ou comme métier. Tout n'est que foot et tout ce qui n'est pas musique. Voilà.
En 2000,
à suivre.
Olivia Ruiz, vous écoutiez.
Je pariais beau quand chantent les oiseaux. Je pariais laid quand ils se croient français. Je pariais beau quand chantent les oiseaux. Je pariais laid quand ils se croient français.
Les têtes raides, vous aviez bossé avec eux.
Christian Olivier, le chanteur des Têtes Raides, m'avait écrit une magnifique chanson qui s'appelle Nandi, et puis il m'avait invité en première partie au Bataclan à mes débuts. C'était fou pour moi. C'était fou de faire leur première partie à 23 ou 24 ans.
2001, vous êtes sur scène avec votre père, justement, Didier Blanc, et la belle histoire où vous partagez, ça doit être hyper émouvant d'être à cette époque-là.
Post-adolescente, avec papa sur scène, vraiment émouvant. Non,
aujourd'hui.
Vraiment vénère, vraiment. Allez, de latin. Non, rien d'émouvant.
Aujourd'hui, c'est émouvant.
Mais bien sûr, on s'aime d'amour, mais on s'aime comme des latins, on se gueule dessus, quoi. Sauf là, non, là, à 800 km de distance, on se manque assez pour s'aimer en douceur de temps en temps.
C'est, ah, c'est bien, c'est bien. C'est la même année, c'est la Star Academy, bien sûr. Avec ce sentiment, vous le racontez pas mal en interview, d'avoir une forme de lors de la tournée, après l'émission, que les gens viennent vous voir en lien avec cette émission et que c'est un succès qui correspond juste au programme même et que finalement il y a un chemin d'artiste à faire derrière, quoi.
Oui, un sentiment d'usurpation qu'on partage avec Patrice McTavre, mon frère dans cette aventure, enfin amoureux d'ailleurs et frère aujourd'hui. Et il y a souvent le soir en discutant, on se disait mais comment on en arrive là en fait, et qu'est-ce qu'on en fait nous de ça, et comment on recommence à zéro et comment on efface cette chose qui nous rend pas fiers parce qu'on a comme une sensation de l'avoir volé. Oui. Et on était vraiment dans des choses, heureusement qu'on était côte à côte pour pouvoir dialoguer et se faire une espèce de petite thérapie en interne, ouais, parce que c'était compliqué.
Ça vous a psychologiquement touché, enfin atteint?
Oui.
Parce
oui.
Quand on parle du Loft, on parle toujours de la première édition, mais la première édition de la Star Academy, c'est aussi tout d'un coup une déferlante. En
bien
fait.
Sûr, et puis surtout que...
Et qui était un Loft musical, entre guillemets.
Ouais, sauf ouais. qu'à l'époque, ouais. moi je m'en rappelle très bien, TF1 disait, nous on fera pas de la télé poubelle comme M6. Ce n'est pas un programme de télé-réalité, c'est une école. Pensez fame, ne pensez pas. Mmh. Et finalement, l'émission ne marche pas et au bout de 3 semaines, ça devient
ouais.
un loft artistique.
Ouais. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Vous dites que psychologiquement, ça a été dur.
Ouais, bah beaucoup de choses. Ce premier prime où on me fait dire des choses, où on fait un espèce de montage où tout d'un coup, on me présente comme une fille possessive, jalouse et prête à être... Enfin, il y avait vraiment une erreur. Il faudrait que vous regardiez ce premier prime pour vous souvenir de la façon dont étaient présentées les choses.
Mais j'imagine que ceux qui ont fait la Starac vous disent aujourd'hui, vous crachez dans la soupe parce que cette émission a fait beaucoup parler de vous aussi, vous ne pourriez pas leur reprocher.
Le fait qu'ils me réinvitent aujourd'hui, qu'ils insistent lourdement pour que je revienne, était quelque part... Une façon de faire comprendre aux gens que si le programme en lui-même, aujourd'hui, me comprend ma colère, et d'ailleurs a amorcé des changements grâce à cette colère, notamment sur l'accompagnement des candidats post-émission.
Ouais. Mais en même temps, le monde de la musique a changé aussi. Il n'y a plus d'histoire de contrat avec des millions pour faire des albums. On est dans une manière d'appréhender le rapport à la musique et à la scène totalement différente.
Bien sûr, bien sûr. Et ça rend les choses peut-être un petit peu plus saines.
Et puis autre chose, il y a des artistes qui, au début, ne voulaient pas aller dans l'émission. Je parle des artistes de notoriété, des professionnels qui ne venaient pas dans l'émission. Et puis après, il y a eu une déferlante de stars qui sont venues.
Je crois qu'il n'y a que pour la première édition que les gens ne voulaient pas venir, hein. Pour la nôtre, en fait. Et encore, moi, j'ai eu des moments magnifiques. Je chantais avec Sacha Distel, avec cool. Marc Lavoine, son duo avec Catherine Ringer, justement.
Qu'est-ce que t'es belle ?
Ouais.
Et puis, il y a quand même des bons côtés, j'allais dire.
Non, mais bien sûr, un accès aux maisons de disques.
On gagne du temps.
Puis de vivre une tournée comme celle-là. C'était. Ça, voilà, c'est une fois dans sa vie.
Oui. En 2008. Toujours ces goûts musicaux très rock.
Ah, mais y a, dans ce disque, il n'y a pas que du rock, il y a tout.
Non, mais là, vous dites que vous choisissez, en tout
cas, c'est cet album, c'est vraiment ce d'accord. disque qui a occupé toute une partie de mes tournées. Je me vois dans les salles en train de chercher la douche dans tous les coins avec mon Walkman sur la tête et ce disque-là.
On est en 2008
oreilles.
Et en 2008 vous chantiez.
C'est toi. La chica.
La chocolate.
Absolument. Qui vous mène en tournée en Espagne.
Oui, alors bon, ça n'a pas été un phénomène, hein, soyons très
mais
honnêtes, on n'est pas sur un énorme succès.
Mais non, mais c'est vous allez chanter là-bas.
Exactement. Bizarrement, ce disque a trouvé plus d'écho en Amérique du Sud qu'en Espagne, assez étrangement. En Argentine, ça a fait un petit truc, au Chili, où j'allais régulièrement en tournée, mais oui, encore un... encore une tendre revanche personnelle, uniquement le plaisir de d'aller voir mes grands-mères et de dire vous voyez ça, c'est partout en Espagne et vous avez voilà de leur envoyer mon planning d'interview et de dire vous avez vu, voilà vraiment purement un truc perso. Je savais que j'allais en vendre 4, mais je voulais le faire quand même. C'était très très important pour moi.
Quand on entend cette version là en espagnol et la version française, qu'est-ce qui diffère d'après vous dans votre voix? Est-ce que on chante de la même façon, dans la même langue? Et qu'est-ce qu'on raconte aussi de son histoire familiale peut-être?
Je dis souvent cette phrase parce que j'en ai pas trouvé d'autre qui le dit mieux. Quand je chantais dans Bouche Cousue les chants révolutionnaires espagnols ou même le Porqué Té Basse de Jeannette que vous avez mis dans le blind test, c'est comme si quand je chante ces chansons-là, j'ai l'impression que je suis mille. Alors que quand je chante en français, je me sens plutôt seule, finalement. Mmh. Et il y a quelque chose qui change aussi dans mon timbre, une épaisseur, quelque chose de plus cassé, en quelque sorte.
Jamais vous avez été gêné par les paroles de cette chanson ?
Si, quand Mathias m'a présenté la chanson, j'ai dit mais attends, mais le fond, ok, puisqu'il a mis en scène une de mes problématiques, mon rapport au corps, au complexe, au regard de l'autre, la dépendance au regard de l'autre, et que je trouvais que c'était important de raconter ça à cette époque, mais bizarrement ça l'est toujours autant. Et en même temps, je disais, on est vraiment obligé de passer par le truc hyper sexuel, là, des petits framboisiers qui poussent au bout de mes seins, là. Et finalement, je l'ai chanté une fois. J'aurais pas pu changer une virgule après ça. Mmh. Elle était, c'est toute la force de Mathias Malzieu. Il a quelque chose de fulgurant comme ça. Et c'était impossible de changer une demi-virgule. Et quand je la chante encore aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est ce rapport à l'image, encore, ces dictates qui nous pèsent comme une chanson, comme Elle panique. Où je me dis, bon, bah, 2009, je suis déjà en train de mettre des poils sous les aisselles parce que ça m'agace qu'on nous oblige à nous épiler, à employer de l'argent et perdre un temps fou. Et ben, bon, bah, 2023, c'est encore un sujet, me semble-t-il.
Elle panique à l'idée d'en faire trop, de vieillir prématurément. De trop ou de s'ennuyer un instant. Elle a peur que tu t'en ailles, peur de tes représailles. Elle a peur pour son petit frère, elle a peur pour son derrière.
Elle panique, c'était en 2009 et en 2009 vous écoutiez.
Justin Timberlake, c'est malheureux, maintenant on voit Justin Timberlake comme juste au corps, quoi. On voit plus que lui.
Beyoncé Single Ladies à cette même période. Cette chanson, on a dit, elle panique également. Et encore des cartons.
Miss Météor, plus de 400 000 exemplaires de cet nouvel album co-composé avec Mathias Malzieu, c'est ça ? Oui. Avec des textes en français que vous signez vous-même, mm-hmm. avec, je pense, une envie tout d'un coup de se dire est-ce que je suis capable ? Je m'y colle. Et je crois qu'il y a un super message de Juliette Gréco.
Ah ben, c'est le déclencheur.
Ouais.
C'est le déclencheur. Mathias, déjà depuis La Femme Chocolat, me dit arrête de demander aux autres de t'écrire des chansons. Tes chansons, elles sont super. Mêlées. Puis voilà, lance-toi. Et moi, je suis encore fragile en termes de confiance. Donc je fais des chansons avec Mathias, en l'occurrence celles qui sont sur l'album, mais toujours en disant peut-être que tu referas les textes après. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis Juliette Gréco lance un appel à plein de chanteuses en disant j'aimerais bien chanter des textes de la nouvelle génération, j'en fais partie, je fais mon petit texte, j'en fais un autre au cas où, je me prendrai un gros vent pour pouvoir, voilà. Et je pars avec mes deux petits textes, la peur au ventre, puis elle garde les deux, quoi. Et là, du coup, je décide de faire confiance à Mathias.
À Juliette, quoi.
Et à Juliette.
Et puis, il y a cette chanson.
Le saule pleureur se meurt de l'eau de mauvaise foi versée par l'arroseur. Arroser cette foi.
Avec le petit frère.
Le saule pleureur se
Toine qui fait un rap dessus. Il est impossible pour vous d'imaginer la musique, le monde de la musique ou des albums sans qu'il y ait de la famille, entre guillemets, à un moment ou un autre. C'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça.
Il y a quelque chose pour moi qui est... Bon, alors, c'est deux super outils. D'abord, déjà, de base, mon père est un super chanteur. Mon frère a une plume incroyable. Donc, c'est lui, d'ailleurs, le texte de L'Abuelo qu'on évoquait tout à l'heure. C'est l'éloge funèbre qu'il a écrite et que j'ai seulement remanié. Donc, pour ces raisons-là, et parce que c'est une façon de dire qu'on n'oublie pas d'où on vient, encore une fois.
On va parler et on va continuer de parler évidemment de votre album et notamment la réplique.
Je suis de celles qui nagent à contre-courant, qui refuse le sens du vent, qui refuse d'être la réplique de la réplique de la réplique.
Ou encore.
À toi qui n'est ni d'ici ni d'ailleurs, à toi le poisson migrateur, à toi qui m'enrichis de tes.
Nouvel album d'Olivia Ruiz.
Je vois.
L'album s'appelle La Réplique et vous êtes, en plus d'artiste, interprète, auteur, vous êtes la marraine de l'association dont nous allons parler maintenant.
Je fais partie des nombreuses marraines et parrains parce que Caroline a mobilisé beaucoup de gens autour de cette cause nécessaire.
L'association hashtag M'endors pas. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Darion, merci d'être arrivée, malgré Anne Hidalgo qui a tout fait pour vous empêcher d'arriver dans cette émission.
C'est Hidalgo machine. C'est vrai, c'est fatigant.
Mais c'est quand même la vérité. Vous êtes auteur de « Et j'ai cessé de t'appeler papa » aux éditions Jean-Claude Lattès, réédité en format poche aux éditions HarperCollins. Vous racontez le calvaire de votre maman.
Oui.
Le mieux, c'est que vous le disiez, parce que vous le direz de toute façon, vous raconterez bien mieux que moi.
Oui, alors en fait, ma maman a été droguée pendant à peu près 10 ans par mon père, à des fins d'agression sexuelle et de viol. Et on a découvert ça, ce cataclysme, en novembre 2020. Rapidement, je me suis mise à écrire parce que, c'est une bombe qui vous arrive et qui vous tombe sur... qui explose tout, qui remet en cause beaucoup de choses, vos repères, vos fondations. Donc j'en ai fait un témoignage littéraire. Et puis rapidement, j'ai souhaité investiguer sur cette côte. Pardon, je suis un peu émue.
Non mais il y a de quoi, somnifères, anxiolytiques, tout était utilisé pour droguer votre maman. C'est fait par votre père, c'est-à-dire que même de le dire, c'est inimaginable, mais de le vivre, c'est encore pire. D'abord, comment vous l'apprenez? Comment la vérité se révèle?
On l'apprend par un coup de chance, la providence, puisqu'en fait, lui, 2 mois et demi avant, est surpris en train de filmer sous les jupes de 3 femmes dans un supermarché qui, heureusement, vont aller porter plainte. Ça va donner lieu à une enquête, à une perquisition au domicile familial dans le Vaucluse, où mes parents vivent depuis 2013, à la retraite de ma maman. Et ils vont exhumer plus de 20 000 vidéographies et photographies à caractère pornographique. Et donc, en fait, le 2 novembre, lui espère... il est convoqué au commissariat et les enquêteurs de police vont faire un travail extraordinaire pour un petit commissariat de province. Ils vont faire en sorte que ma maman l'accompagne. Lui, il pense qu'il va récupérer son matériel informatique saisi 2 mois plus tôt. Et il va pas repartir, il va être mis en garde à vue, il va être transféré au parquet. Et ce jour-là, c'est un lundi, et ma maman va apprendre pendant 5 heures l'impensable et l'inimaginable. Photos à l'appui, extraits des vidéos qu'il prenait, donc c'est son monde qui s'écroule. Et ce jour-là, elle m'appelle à 20h pour me dire, pour m'apprendre les faits, et j'avoue que c'est une descente aux enfers.
Elle ne se doutait de rien, il n'y avait aucun indice, aucun sentiment.
Alors, elle ne se doutait pas que son mari abusait de sa confiance.
Notamment d'être dans le coton en permanent, d'être dans le choix, de ne pas savoir ce qui se passe. Oui.
En revanche, pendant plusieurs années, sachant que nous on vivait à 800 kilomètres, on avait ma maman dans des états de léthargie très avancés, où ma mère tenait des propos incohérents. Ma mère s'est inquiétée. Elle a consulté, on l'a encouragée à consulter des médecins spécialistes, des neurologues, qui n'ont jamais rien compris. Quand vous voyez arriver une femme d'une soixantaine d'années, mère de 3 enfants, petits-enfants, que vous pensez qu'elle passe une retraite heureuse dans le sud de la France avec son mari, aucun spécialiste n'a pensé à ce diagnostic.
Évidemment.
Donc voilà, ça a été ça a été 8 ans d'errance thérapeutique, et puis on apprendra au gré de l'instruction que ça a démarré bien avant 2013.
Et que en fait pour rentrer dans un détail, c'est que votre père l'a livré à d'autres hommes qu'à lui.
Oui, alors pour pousser dans tout ce qui est le plus scabreux et dégueulasse, c'est qu'il ne la droguait pas pour son plaisir personnel. Il l'a droguée pour la faire violer par d'autres. Et là aussi, on apprendra qu'ils ont été plus de 80. Simplement, ils ont été juste 51 écroués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un delta de mecs dans la nature qui sont pour la plupart pères de famille, en couple, qui sont venus abuser de ma mère sous soumission chimique. Et la soumission chimique, pour avoir investigué, puisque quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que si ma mère avait vécu ça sur un panel d'autant d'individus, ça devait certainement pas être un cas isolé. Et j'avais cette conviction intime. Et en investiguant, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était un vrai fait de société. Oui.
Avez-vous le temps de rester, Caroline, avec nous encore au-delà des informations de midi? Merci, on va continuer d'en parler, évidemment, avec vous et avec Olivia Ruiz, qui a tenu à ce que l'on mette en avant aussi cette association qui s'appelle, le hashtag c'est M'endors pas, et le numéro de téléphone, je tiens à le dire et je le répéterai tout à l'heure, est le 39 19 H24 pour pouvoir répondre aux appels pour les violences faites aux femmes. On parle de tout ça après les infos de midi sur Inter. La bande originale avec Leïla Kadouri, Morgane Cadignan, Julie Conti, Alexandre Cominec, Tanguy Pastureau, notre invitée Olivia Ruiz.
Je suis de celles qui nagent à contre-courant, qui refusent le sens du vent, qui refusent d'être la réplique de la réplique de la réplique.
La réplique, c'est le titre de l'album d'Olivia Ruiz. Olivia a eu la bonne idée de nous parler de vous, Caroline Darian, et de cette association hashtag M'endors pas, de votre livre. Et j'ai cessé de t'appeler papa, rien que le titre déjà est glaçant. C'est-à-dire se dire qu'un jour, on ne reconnaît plus celui que l'on a appelé papa au point de ne plus vouloir l'appeler ainsi, et qu'il est un criminel, et que donc tout s'écroule, toutes les valeurs transmises, tout ce que vous avez connu dans votre vie, mais surtout vous en faites de votre cas personnel, celui de votre maman en tout cas, vous en faites un combat pour les femmes qui subissent cette soumission chimique, c'est-à-dire sous l'emprise de médicaments, pas forcément le mari, mais ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un autour, un proche en tout cas, quelqu'un qui a la confiance de la victime, lui fait prendre des médicaments, et ces médicaments permettent d'être totalement KO, debout, c'est ça, et d'être abusé.
En fait, la soumission chimique, c'est un terme très précis, qui consiste à droguer une personne à son insu, à des fins de délit, ça peut être pour des vols, des extorsions, et aussi à des fins d'agression sexuelle. Il faut savoir qu'en France, 9 femmes sur 10 sont concernées.
Non, c'est pas possible. 9 femmes sur 10
9 femmes sur 10 sont concernées. Ce sont des femmes qui sont concernées par la soumission chimique. Déjà, ça, c'est le cas. Et dans 70% des cas recensés, c'est à des fins d'agression sexuelle.
Ah d'accord, ok, donc c'est pas 9 femmes sur 10 en France sont sous soumission chimique,
non, c'est
parmi celles qui sont victimes de la soumission chimique,
ce sont
des femmes essentiellement.
Et dans 70%, dans 70% des cas, c'est dans l'intention d'une agression sexuelle.
Comment on se méfie, c'est quoi les produits, comment, enfin...
Alors là aussi, il y a une espèce d'idée préconçue, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, on a vu émerger... une surcommunication sur le GHB, qui est la drogue du violeur, qui reste très peu dans l'organisme, juste quelques heures. Mais il faut savoir qu'à la base, à la fin des années 90, en 97, on parlait de soumission médicamenteuse. D'accord. Et c'était bien des médicaments qui étaient recensés dans la majorité des cas. Ces médicaments, ce sont des anxiolytiques et des somnifères qui vont avoir tendance à annihiler les souvenirs ou à altérer le comportement, baisser le taux de vigilance. Il y a aussi des drogues.
Comment se rendre compte,
pardon, qu'on met dans la nourriture, qu'on met dans
En fait, si vous voulez, dans la majorité des cas, là je vais parler de substances médicamenteuses, c'est incolore et inodore. Donc vous les mélangez à un verre de table, à des softs, mais aussi à de la nourriture, et vous vous rendez compte de rien.
C'est en vente, entre guillemets, libre, accessible.
Les médicaments, à la base, sont délivrés sur ordonnance, sauf qu'il est très facile de contourner le système aujourd'hui en France.
Ok. Vous cherchez avec votre association, évidemment, à ce que la parole se libère et à ce que l'on soit de plus en plus consciente et conscient que ça existe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça n'existe plus et est-ce possible que ça n'existe plus?
Je ne sais pas si ça ne peut plus exister parce que les prédateurs sexuels ont bien compris comment ça marche. Et j'ai envie de dire, c'est presque l'arsenal préféré des prédateurs sexuels. En revanche, il me paraît vraiment essentiel pour les femmes, les victimes, qui ont un doute, d'investiguer le doute. Et aujourd'hui, la majorité des femmes, je vais vraiment parler des femmes pour le coup, même si ça concerne aussi des enfants dans des cas d'inceste, il faut le savoir. Il faut aller consulter un médecin. Aujourd'hui, malheureusement, tous les médecins ne sont pas formés à diagnostiquer les cas de soumission chimique. En revanche, il y a des structures spécialisées, et là je vais parler un peu plus technique, mais il y a des centres d'évaluation et d'information spécialisés dans l'addictologie, dans la pharmacovigilance, et notamment ce qu'on appelle le CEIPA, et à Paris c'est un centre de référence. Il ne faut pas hésiter à aller se tourner vers ce genre de structures qui vont véritablement pouvoir vous prendre en charge. Après, aujourd'hui le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas véritablement de fléchage en matière de prise en charge. Vous avez un doute, en tant que victime, pour l'avoir vécu, vous ne savez pas vers qui vous tournez. Dans la majorité des cas, on vous dit « déposez plainte ». Mais aujourd'hui, c'est moins de 10% des femmes qui sont victimes d'agressions et même de violences conjugales qui arrivent à pousser les portes d'un commissariat. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'aller déposer plainte contre quelqu'un que l'on connaît dans la majorité des cas. C'est votre mari, c'est le père de vos enfants, c'est votre cousin, c'est votre oncle.
C'est toujours au cercle proche,
C'est énormément de culpabilité pour les victimes. Donc, aller déposer plainte pour espérer...
C'est toute une famille qui s'écroule.
Mais bien sûr, la structure familiale est démantelée d'une certaine façon. Et on vous dit, allez déposer plainte pour espérer être relayé vers une unité médico-légale qui va pouvoir faire les analyses toxicologiques requises. Sauf que, aujourd'hui, on sait qu'on a un réservoir de victimes qui soit s'ignorent, comme ça a été le cas de ma mère pendant 10 ans, même si elle avait un doute, sauf que lorsqu'elle allait consulter, on ne lui renvoyait pas le bon diagnostic, soit ont un doute mais n'osent pas. Parce que ça veut dire aller creuser à des endroits où ça fait extrêmement mal. C'est en parler, j'ai envie de dire, c'est la première étape, mais dire aux victimes de se faire confiance, c'est extrêmement important.
Et pour en apprendre plus, et tout le monde pourra en apprendre plus dans votre livre, et également sur le site internet m'endorpas.org, et je redonne ce numéro de téléphone pour les violences faites aux femmes, le 3919. Olivia Ruiz, je sais que vous voulez pas vous étendre sur le sujet, mais vous avez une suspicion à un moment donné aussi d'avoir été victime de cette soumission chimique par un proche.
Oui, et c'est en discutant avec toute l'équipe de Caroline, finalement, que les choses se sont révélées. Effectivement, j'ai eu une mésaventure avec un manager il y a quelques années et qui a profité d'un endormissement qui était très soudain.
Et donc chimique pour...
Et donc très probablement chimique. J'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai fait sortir de chez moi avec un espèce de sursaut de conscience, ce qui m'a permis d'éviter le pire.
Le viol,
Mais voilà, qui donnait tout à coup encore un peu plus de sens... à mon engagement auprès de m'endors pas et de Caroline.
Merci Caroline Darian d'être venue. Pardon pour ce décalage, ce découpage, mais il était important qu'on vous laisse le temps de vous exprimer et de vous écouter. Merci mille fois.
Regarde-la, c'est le destin qui t'appelle. Elle a les clés, tu retrouveras le sommeil. La vie et la lumière. Regarde-la, ta destinée se réveille. Tu as la force de la saisir, de l'éteindre.
Je ne sais pas si le choix de la chanson correspond bien au moment.
En tout cas, il y a un message d'espoir dans cette chanson. D'ailleurs, dans beaucoup de chansons, il y a un message de tu vas y arriver. Il y a ça. Je serai là et tu y arriveras.
Nouvel album de Olivia Ruiz. On en parle jusqu'à 12h30. Mais voici d'abord Tanguy Passe. Ouais.
Hier, pendant le flash info de midi, je regardais Vicente Lizarazu en me disant que j'adorerais être gaulé comme lui. Puis il a expliqué qu'il faisait 4 à 5 heures de sport par jour, donc je me suis dit que j'allais rester gaulé comme moi. Quand soudain, Timur Öztürk, qui est un homme dont le nom de famille comporte deux fois des trémas, il a 4 points, à peine moins que l'équipe de Lorient cette saison. Timur annonce la mort de 5 migrants, dont une enfant, au large de la côte d'Opale, ces mêmes côtes où Brigitte et Emmanuel vont régulièrement, bisous sur la plage, promenade dans les dunes, tout rappelle le Cap d'Agde, sauf le climat, donc les gens sont habillés, c'est le patin. Calais, là-bas il n'y a pas d'échangiste, même pour faire pipi dans la nature, on défait pas sa braguette, il fait trop froid, les gens portent des couches, 3 couches, les unes par-dessus les autres, plus 3 par cas. Les gens de la côte d'Opale ressemblent tellement à des lasagnes que quand ils entrent dans un resto italien, les autres clients essaient de les manger. 5 migrants morts en mer, dont une enfant, a dit Timur. Et même le fait que ce soit un journaliste au prénom si mignon, Timur, qui l'annonce, n'a pas amoindri la tristesse de cette actu-là. En fait, même si c'était le chapeauté avec ses petits yeux ou un mougouaï en train de faire qu'il avait dit, ça aurait été triste. Ils étaient 112 sur un small boat. Un small boat, c'est un bateau semi-rigide. Quand moi j'étais adolescent, on appelait ça un Zodiac et on l'utilisait que pour rejoindre un bateau plus solide. Quelle chance on avait. On était 3 dessus, pas 112. On avait juste une super vie en fait. Là-bas, à la forêt Fouesnant ou à Andernos-les-Bains ou à Cabourg, moins souvent dans le centre-ville de Dijon. Voilà, te faire toute la rue commerçante en Zodiac avec le moteur qui arrache les pavés, même si au bout de 400 mètres la boutique ouverte c'est Célio, tu y entres heureux d'être arrivé. 112 sur un small boat, avec les paquebots qui vous frôle parce que la Manche, c'est une autoroute pour super tankers. La vie des cabillauds, c'est du bruit tout le temps et tu finis en fish and chip sur le port de Plymouth. 112 sur un small boat, c'est du suicide. Donc il faut être sacrément désespéré pour y aller. En fait, il faut n'avoir aucun plan B. Nous, on a toujours un plan B. Si Théo te met un vent, il y a Timéo. Si le Kalimba te refuse l'entrée à cause de ta tenue, il y a Carrefour City, un pack de bière et la soirée, tu la fais chez toi en mettant la RFM Night Fever le samedi soir des 22h avec Patanjali. Mais 112 sur un small boat, tu sais que dans l'eau, personne n'a de plan B. Là, c'était des Iraniens, des Irakiens, des Syriens. Je me mets à leur place. Déjà sur Expedia, ce sont pas des noms de pays que je tape. Un hôtel club à Alep, ouais, bah non. Donc y vivre, je peux comprendre que ce soit pas une option. Tarif de la traversée de la Manche en Zodiac de 1500 à 6000 euros. Juste pour comparer, la croisière Ponant aux Caraïbes sur le Champlain, 9 jours départ Fort de France, c'est 4390 euros. 3000 seulement si Philippe Laville vient chanter parce que vous avez une indemnisation. Donc hier, tandis que Vicente Lizarazu parcourait nonchalamment de la main droite ses pectoraux tellement durs comme du granit qu'à Carnac il pourrait crier au menhir qui sont des petits joueurs, j'écoutais Timur déballer l'horreur de l'actu, une enfant, une de plus. Et là il a parlé du Rwanda, parce que donc ces gens en quête d'un avenir meilleur, en fait d'une survie, même Koh-Lanta, ça leur irait, cherche à gagner le Royaume-Uni. C'est ultra-libéral, t'as des contrats de travail de 2h15, et sur place, il y a déjà des personnes de ton coin prêtes à t'aider. Moi, quand je suis arrivé de Bretagne sur Paris, ça fait pareil. Mon premier réflexe a été de camper devant chez Nolwenn Leroy, déguisé en un de Guéméné. Ces sextos envoyés à Vincent Bolloré, c'était pas uniquement pour le plaisir.
Bien
quoi.
Sûr.
Je comprends qu'on veuille passer en Angleterre. Moi, j'en ai longtemps rêvé, pour d'autres raisons. À l'époque où nous, on avait Beau Lavabo, eux, ils avaient les Stone Roses, le Beautiful South. Et Kate Bush, qui est la personne que j'aurais aimé être si j'avais été une femme, sortait The Sensual World, son 6e album. L'Angleterre, ça fait rêver. Les îles en général, à part Haïti en ce moment, où si vous n'avez pas une Kalachnikov, vous n'êtes pas dans l'ambiance. Donc en Angleterre, il y a une crise migratoire massive. Et hier, Timur, notre ami, a donc dit que le Parlement anglais avait adopté une loi autorisant l'expulsion des travailleurs étrangers illégaux, pas vers leur pays d'origine, comme on pourrait le penser, mais vers le Rwanda. En gros, le Royaume-Uni paye le Rwanda pour qu'ils prennent leurs migrants. migrants sans possibilité de retour. Ce qui fait qu'à Kigali, bientôt, il va y avoir des Syriens, des Iraniens, des Turcs, des Libyens, dans un pays qui, au niveau du vivre ensemble, c'est pas toujours montré tip-top, comme diraient les experts en géopolitique. Hein, le Rwanda, on l'a plus vu dans les JT que dans 50 minutes Inside. Alors, Rishi Sunak, premier ministre britannique, lui, s'est félicité de l'adoption du texte en disant « Maintenant, les migrants sauront que s'ils viennent chez nous, ils finiront en Afrique. » Sympa pour l'Afrique. C'est, hein, c'est un monsieur qui, en tant que vendeur au Club Med, aurait été décrit par les clients comme « sans filtre ». Hein, le Rwanda, dirigé par Paul Kagame depuis 2000 et qui tape alors à chaque présidentielle 100% des voix. Poutine à côté, c'est Théo de la Starac qui se fait dégager au premier prime. S'est dit très satisfait aussi. Satisfaction qui a un prix 430 millions d'euros sur 5 ans payés par le Royaume-Uni, plus 23 000 euros par personne accueillie. Quand moi je pense qu'un sourire juste me satisfait, j'aurais fait un très mauvais dictature opportuniste de merde. Après, est-ce que risquer de se retrouver en Afrique va décourager des gens qui n'ont rien à perdre de tenter le coup de poker? Je réfléchis, je pense pas. Voilà, tout ça pour vous dire que la Manche est un vaste cimetière, comme la Méditerranée, reste les Caraïbes. 9 jours pour s'éloigner de tout ça et juste être sous le soleil des Antilles, sur un bateau des croisières ponant et se dire quelle chance j'ai, comme quand adolescent dans le Zodiac, on n'était que 3 et pas 112.
Merci, bravo. Moi, je salue aussi le travail de mon copain de SOS Méditerranée, ouais. Tu as raison.
À toi qui n'es ni d'ici ni d'ailleurs, à toi le poisson migrateur, à toi qui m'enrichis de tes couleurs, à toi qui flotte.
Vous vous rendez compte que chacune de vos chansons trouve un écho dans l'actualité, Olivier Ruiz ?
Ou que c'est plutôt l'actualité qui est suffisamment bouleversante pour centraliser les pensées de tout un chacun, artiste ou pas, non ?
Est-ce qu'une chanson peut sauver le monde, peut changer la face du monde, peut soulager ?
Soulager, oui, une chanson peut soulager individuellement. Changer la face du monde, non, je...
Une chanson peut être militante, en tout cas, une chanson peut être engagée.
Une chanson,
engagée.
Bien sûr, peut être engagée, mais est-ce qu'elle a le pouvoir de changer la face du monde ? J'en suis malheureusement.
Quand même, la chenille contre les pesticides, par exemple.
Ça a fonctionné, c'est vrai.
La danse des canards aussi.
Ouais. Bah, ok, oui, d'accord, voilà. On arrête.
Super.
Je
vais
en mettre un peu de temps.
Nage à contre-courant, qui refuse le sang du vent, qui refuse d'être la réplique.
Le nouveau single d'Olivier Ruiz, c'est le sel. Sur l'album La Réplique. En tournée partout en France, à commencer par le Printemps de Bourges demain, et puis au mois de novembre l'Olympia, et beaucoup de dates partout en France avec ce fameux tourbus. Elle a arrêté de le faire à pied maintenant, sa tournée, d'autres événements culturels, oui. Leïla.
Absolument. On cherche un objet qui fait partie de l'histoire de la musique. C'est Peter Doherty qui en a fait l'acquisition récemment et qui compte l'installer dans la chambre de son studio et de son hôtel.
Pas quelque chose qui appartenait à Amy Winehouse ?
Non, pas à Amy Winehouse, mais ça a appartenu, c'est lié à quelqu'un qui n'est plus.
Kurt Cobain,
Shane McGowan.
Non, ça va être compliqué de s'en servir d'ailleurs, et ça va être très curieux de s'en servir de cet objet dans cette chambre d'hôtel. C'est lié à une grande figure.
C'est une relique. C'est genre la.
C'est lié à la mort d'un artiste, d'un grand artiste.
Freddie Mercury.
Non.
Lié à la mort ?
À la mort. Il y est mort.
Les toilettes ?
Le Club des 27.
Jim Morrison,
ouais.
À la baignoire de Jim Morrison.
Absolument. Pete Doherty a fait l'acquisition de cette baignoire.
C'est
glauque. Jim Morrison est mort en juillet 71 à Paris et compte l'installer dans l'hôtel des Libertines.
Je vois pas ce qu'il peut faire sinon.
Mais tu vas pas te laver dans la baignoire où Jim Morrison est mort.
Il y a peut-être des gens qui sont un peu plus bizarres.
C'est pas écolo, il faut prendre une douche.
Voilà, c'est ça. Il y a peut-être des gens qui sont un peu plus étranges.
J'aurais dû mourir dans la douche d'ailleurs.
C'est plus chic.
Absolument.
Si vous voulez continuer.
Pardon.
Moi ça me dérange pas. Je voulais demander à Olivia qui est un peu notre invitée.
Oui, pardon.
Voilà, si elle avait un objet. On disparaît vite. Hein. On est peu de choses, Olivier.
Si vous avez
un artiste dont vous aimeriez collectionner un objet ou vous sentir plus proche par un objet.
J'ai un badge que Patti Smith m'a offert il y a une quinzaine d'années. Pas qu'elle m'a offert n'importe quoi. Ce badge, non. C'est le jour où je l'ai rencontré. Non, mais oui, je l'ai volé.
Ah ouais.
Absolument. C'est le jour où je l'ai rencontré. Elle m'a engueulée parce que j'avais fumé une clope. Et elle m'a dit, people have the power, stop it right now, ok.
Oh wow.
Et après ça, elle est venue, elle a regardé un petit bout de mon concert sur scène, j'ai regardé un petit bout du sien, il y a un de ses badges qui était tombé de son t-shirt.
Et hop, ça, voilà. C'est fait.
Ça, c'est dans la poche.
Très bien. Voilà. Donc vous savez, si Olivia perd un truc sur scène, elle pourra pas vous en vouloir si vous lui volez l'objet, la relique. Et la baignoire d'Olivia Ruiz n'est pas encore en vente sur,
non,
sur Internet.
Jamais.
Elle est
jamais.
Non, douche.
Bah, la douche, bah, évidemment.
Mort dans
évidemment.
La baignoire, c'est horrible.
Voici, douche comprise, Alexandre Kamenek.
Ah oui.
Allez, un peu de sourire.
Et la rococo.
Ah, ouais, la rococo.
J'espère que tout le monde a bien profité de ses vacances, ouais. Hein, que le retour n'est pas trop dur. Moi, ça va, je suis tellement content de vous voir.
Ça se voit ?
Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas que je vous aime pas, c'est que pour moi, vous êtes synonyme de travail.
Oui, je sais. Hein,
tu vois. Et c'est bien la première fois que j'associe deux Arabes au travail. Non, mais c'est pas évident. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident. Non, mais même ton prénom, Nagui.
Quoi ?
Nagui, on dirait un nom de caisse de compensation ou je ne sais quel organisme d'allocation français. CAF, RMI, Nagui. Non, il faut que j'appelle la Nagui. Franchement, ça sonne comme ça. Bref, ma rentrée ça va, rien de compliqué comparé à celle de ce touriste américain venu passer ses vacances en Suisse. Ouais, le mec a partagé ses photos avec ses proches durant le séjour et en rentrant chez lui, il découvre une facture de téléphone de 143 000 euros.
Mais non.
Ouais, 143 000 euros, la Suisse c'est tellement cher que même la prendre en photo ça te coûte de l'oseille. 143 000 euros, ça fait cher la dick pic. Hein.
Oh, wow. Oh.
Bah, il fait du tourisme en Suisse, il y a bien un moment où il s'emmerde, le frérot, il prend une photo de sa bite.
Ah. Oh non.
Enfin sa Porsche comme il l'appelle maintenant. Voilà. À lui quand il ouvre sa braguette ça fait bon. Marococo elle est simple cette semaine. Arrêtez de nous partager vos photos de vacances. Mm. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'en tape. Voilà. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de vous savoir heureux. Mm. Tout simplement. Moi j'ai pas envie de te savoir sur une plage alors que je suis dans le métro. Hein. J'ai pas envie que tu sentes le sable fin sous tes pieds pendant que j'écrase des pipes à crack. Tu vois? T'as déjà collé ton oreille contre une pipe à crack? Hein. T'entends pas la mer. Vraiment. J'aime tellement pas voir ce bonheur partagé que pour moi, on devrait créer un réseau qu'avec des stories et des posts sur les moments de merde qui nous arrivent. Tu vois. Fini Instagram, on crée Instadram.
Voilà, je
tu vois, tu divorces, tu faillites, qu'importe la galère, tu postes. Hein. Salut les cookies, voilà, je viens de recevoir les résultats de mon dépistage. Bah, c'est positif. Chlamydia, gonorrhée, sida, syphilis, hein, comme on l'appelle dans le milieu hospitalier, la 4 fromages, et moi j'ai pizza. Non mais c'est vrai. C'est vrai, ça peut être drôle. Et ça peut avoir des avis bénéfiques. Hein, franchement, que d'afficher les galères. Tu sais, le nombre de profs qui sont dépassés par les réseaux sociaux. Mm. Hein, pour toi, il y a une solution pour retrouver un peu de crédit auprès de tes élèves. Moi, si j'étais prof de maths, mais je rendrais les notes en story. Je te fiche, hein. je mentionne toute ta classe, je mentionne toute ta famille. Noah, 3,5 sur 20. En maths, on est meilleur à la cantine qu'en cours de maths, je vois. Hein, on tient mieux sa fourchette qu'un compas. Sabrina, 7 sur 20. Enfin, 7 sur 7. Hein, ta note ne dépasse pas le degré d'alcool des bières que boit ton père.
Non.
Voilà, donc bref, j'en étais où, moi? Oui, arrêtez de nous partager votre bonheur. Surtout si vous êtes des Américains en vacances. Putain, les vacances, moi, ça me manque déjà. Mais j'ai plus de thunes. Faut que je demande un crédit. Quelqu'un a le numéro de la Nagui?
Aucune photo de ses vacances, évidemment, sur Insta.
Et on retrouve Alexandre Kamenek, non pas en vacances, mais sur scène, en tournée, en France, en Belgique et en Suisse.
Et à la Cigale, en janvier 2025.
Ah, enfin.
Voilà.
Enfin.
Car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre.
Le nouvel album d'Olivia Ruiz s'appelle La Réplique.
Je suis de celle qui nage à contre-courant, qui refuse le sens du vent, qui refuse d'être la réplique.
Un album fait de douceur et de combat, les deux vont extrêmement bien ensemble dans les paroles et avec ce rythme chaloupé qu'il y a dans l'album d'Olivia. Des excuses à présenter, Judy Conti.
Oui, alors désolé pour la mémoire, la carrière et l'organe de Luciano Pavarotti qui a été résumé par Nagui à ce monsieur qui boit du café.
Mais non, j'ai plus son nom.
Là-bas, heureusement que vous présentez pas une émission musicale.
Ah oui, heureusement.
Désolé pour le papa d'Olivia Ruiz qui, on l'a bien compris, a eu beaucoup de boulot avec sa fille. Hein. Oui. Chez les Ruiz, apparemment, le patriarcat n'a pas sa place. Et désolé pour Julio Iglesias qui est dégoûté d'avoir loupé l'adaptation espagnole des Sardines.
La Sardines.
Mais Julio,
Rappelle-moi, j'ai traduit la disco entière de Patrick Sébastien. Voltear la servilleta va faire un carton.
Merci, merci Olivia et bravo.
Mais merci à vous.
Bravo
aussi,
pour l'intelligence de cet album et le plaisir qu'on a à l'écouter et à le danser, puisque on peut faire les deux en même temps, heureusement. Demain, c'est Anne Brochet qui sera notre invitée.